Seigneur, nous allons faire une lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Le livre de la Genèse, chapitre 8, à partir du verset 6. Et nous allons lire ensemble Genèse, chapitre 8, verset 6, et nous irons jusqu'au verset 12. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre, mais la colombe ne trouva pas de quoi se poser et revint à lui dans l'arche. Car il y avait de l'eau sur toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Galates chapitre 5, nous ferons une deuxième lecture, Galates chapitre 5, et nous lirons les versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Et l'apôtre continue par cette parole, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Et puis ça, il y a une parole aussi qui est marquante pour nous tous ce matin, c'est cette parole de Romains chapitre 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Amen. Notre vœu le plus cher ce matin, c'est que nous puissions être conduits par l'esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons vu là dans la lecture de la Genèse deux personnages de la Bible, deux animaux, le corbeau et la colombe. Il y a comme un antagonisme entre les deux, un état d'opposition de deux forces, de deux principes, un antagonisme, je dirais presque d'intérêt entre ces deux animaux, un qui représente bien sûr la chair, le corbeau c'est un charognard, c'est un animal un peu particulier, il a une couleur un peu particulière, en hébreu le corbeau c'est Orev, ça vient de Erev, la nuit. Vous savez, la nuit, quelqu'un a dit que tous les chats sont gris, c'est vrai. La nuit venue, on y verra plus clair. Vous voyez, il y a des gens qui se dévoilent la nuit. Un homme se mesure en une nuit. Il faut avant la nuit allumer ton flambeau, proverbe arabe. Gens de bien aiment le jour et les méchants la nuit, proverbe français. La nuit est le jour des méchants. C'est un proverbe aussi qui est d'origine turque. La nuit est le jour des méchants, ça c'est vrai. Et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. C'est un proverbe béninois. Un proverbe africain. Vous voyez, la nuit, il se passe toutes sortes de choses. Le corbeau nous parle, bien entendu, des œuvres de la chair, la colombe, et le symbole du Saint-Esprit. Elle nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Au rêve, le corbeau vient de harag, en hébreu, qui signifie monter, grimper et s'élever en vue de pouvoir trouver une charogne sur le bord d'une route. Vous savez, le corbeau se nourrit de charognes. Et il regarde avec envie. C'est l'image, bien sûr, de la convoitise des cieux. Mais au rêve, le corbeau, ça vient de harav, qui signifie être sec, desséché, stérile et aride. Ceux qui ne vivent pas sous la direction et la conduite du Saint-Esprit vivent dans une espèce de vie desséchée, stérile, et aride, c'est absolument pas ce que nous voulons les uns pour les autres ce matin. Nous voulons une vie bénie, une vie riche de la manifestation du Saint-Esprit. Je crois, et je le crois fermement ce matin, que nous avons besoin les uns les autres d'être renouvelés et visités tout à nouveau de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Alléluia. Et moi, je sens que le diable vous a quelque peu volé cette joie. Il faut la retrouver. Amen. Ce n'est pas un fardeau que de venir dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ce matin, j'étais heureux de me lever et de savoir que j'avais un lieu où j'allais pouvoir me retrouver avec des hommes et des femmes qui ont les mêmes convictions que moi, qui ont expérimenté le même Dieu, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Vous savez, j'ai fait 24 jours en Afrique pour la télévision francophone. Nous avons fait 43 émissions de télévision et nous avons dû, bien sûr, aller dans des lieux de culte importants avec des milliers d'hommes et de femmes aussi fervents. Et là, on a expérimenté des délivrances d'hommes et de femmes qui étaient sous l'emprise de la puissance des ténèbres. On a expérimenté des guérisons. On a expérimenté des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Des gens qui ne croyaient pas en Jésus, qui en quelques minutes déposaient les armes devant lui, se mettaient à genoux et expérimentaient la grâce de Dieu. Et lorsque je me suis retrouvé de retour à Jérusalem, dans la communauté du matin et le soir dans la communauté de Tel Aviv, eh bien, j'ai dit, écoutez mes amis, moi, j'aimerais non pas invoquer le Dieu d'Israël ce matin, mais j'aimerais invoquer le Dieu de l'Afrique. Parce que là-bas, j'ai expérimenté des prodiges et des miracles. Et puis, j'ai pas fini de prononcer ces paroles, qu'on a commencé à sentir le Saint-Esprit descendre, c'était pendant le temps de louange et d'adoration. Et là, il y a des paroles de connaissance qui ont fusé. Et on avait au milieu de nous une juive qui croit en Jésus depuis de nombreuses années, mais qui était un peu réfractaire aux manifestations du Saint-Esprit. Et elle devait passer un examen là dans les jours qui venaient parce qu'elle avait une tumeur au sein qui semblait vraiment être maligne. Elle était tremblante, saisie d'effroi. Et Dieu a tout dévoilé en lui disant « Tu as peur, tu es dans la crainte parce que tu dois subir un examen. » Et là, tu es saisi d'effroi. Mais aujourd'hui, moi, je suis l'Éternel qui guérit. Au moment où cette parole a été prononcée, une flamme de feu a traversé son sein du côté où elle avait sa tumeur. Et lorsqu'elle a passé l'examen, eh bien, il était bien entendu négatif. Parce que lorsque le divin chirurgien intervient, il manifeste sa puissance. Est-ce que vous croyez en ce Jésus qui guérit encore aujourd'hui ? Nous ne sommes pas des cessationnistes qui croyons que les dons spirituels étaient bons pour l'époque où le Seigneur se manifestait en Judée, Samarie, Israël. Mais nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé. Nous croyons que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous avons une famille aussi d'Africains. Il est consul de l'ambassade du Cameroun en Israël, dont un de ses fils était malade incurable d'une maladie des os et du sang, qui a un nom un peu particulier, je ne l'ai pas en tête parce que c'est vraiment un nom particulier, mais la mère vraiment a saisi la bénédiction du Seigneur. Et alors qu'il avait un traitement très lourd, l'enfant avait un traitement très lourd, elle suivait des messages à la télévision, et ils étaient d'origine catholique. Aujourd'hui, vraiment, ils sont nés de nouveau, le mari comme la femme, et assidus dans la maison de Dieu. Et seuls devant leur téléviseur, ils ont réalisé que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et ils ont saisi certaines paroles. Et alors que dans le programme télévisé, le prédicateur annonçait le nom de la maladie de l'enfant en disant « Vous êtes ses parents devant le téléviseur aujourd'hui, mettez votre main sur le téléviseur et votre enfant va être guéri. » Ça va vous troubler ce que je vous dis ce matin. Ils l'ont cru. Ils sont allés devant le téléviseur, ils n'avaient jamais mis les pieds dans une église évangélique. Et là, le prédicateur a prié, et le père, qui était encore un peu dans l'incrédulité, disait à sa femme, « Est-ce que tu as donné le traitement au petit ?» Elle lui disait, « Oui, oui, mais en fait, c'était un saint mensonge quelque part, parce qu'elle avait décrété que l'enfant était guéri, et elle ne lui a administré aucun traitement dans les jours qui ont suivi, et fort a été de constater qu'ils ont intégré notre communauté. Et dans ce laps de temps, ils ont constaté que l'enfant était entièrement guéri. Nous avons des photos de l'enfant, nous avons des certificats médicaux. Et nous avons bien sûr des photos où l'enfant a ses pieds qui sont tellement enflés, ses bras qui étaient tellement enflés, ses jambes, son corps, c'était vraiment terrible. Et aujourd'hui, vous voyez l'enfant, vous constatez qu'il galope dans l'église, qu'il respire la santé. parce que Dieu a posé sa main sur lui. Amen. Nous croyons que ce Dieu n'a pas changé. Le corbeau, c'est la nuit. Le corbeau, c'est l'aridité, c'est la stérilité, c'est la mort, c'est les steppes arides, c'est le Arava. Horeb, c'est le Arava, c'est le désert. Et le désert, Midbar en hébreu, nous rappelle cette parole littérale de Midbar, le désert, Midiber. Quand tu es dans le désert, Midiber, qui parle ? Qui parle ? Qui parle alors que tu es dans l'épreuve, alors que tu es dans le combat, alors que tu es dans la difficulté ? Quelle est la voix que tu entends à ton oreille ? Et qui te dit peut-être ce matin, où est ton Dieu ? Regarde ton état, regarde ta situation, regarde peut-être même l'état général de la maison de Dieu. Nous avons subi et vécu des moments terribles d'épreuves, de difficultés, de combats. Mais le Seigneur lui-même n'a pas été épargné. Vous savez, quand on parle d'être conduit par l'Esprit, et c'est bien d'avoir pu lire cette parole de l'Épître aux Romains, d'être conduit par l'Esprit, eh bien le verbe « conduire », c'est le mot « ago » en grec. Et si nous voulons que les choses s'arrangent pour chacun et chacune d'entre nous, il faut avoir la capacité d'expérimenter ce verbe, d'être conduit par l'Esprit, qui en grec est le mot « ago », qui nous rappelle que c'est l'image d'un cheval qui est conduit par les rênes. Le cavalier, c'est le Seigneur. Le cheval, c'est l'Église. Nous voulons accepter d'être conduits par le Seigneur. Nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous rappelle que la loi de Moïse, elle a été comme un saint pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est vrai ou non ? Le pédagogue, c'est le pédagogos en grec. Le pédagogos, c'est finalement en hébreu le homénète, une métapélète, une nounou. Et quand j'étais moi sous la loi, que je grandissais dans la cour de la synagogue de la rue Breteuil, sous la responsabilité de l'ancien grand rabbin de France, Joseph Citruc, j'avais besoin d'une nounou. J'avais besoin d'être entouré, j'avais besoin d'une métapélète, quelqu'un qui veillait sur moi, qui me dit « ne touche pas là, tu vas te brûler, ne mange pas cela, tu vas être empoisonné, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Mais quand j'ai expérimenté la grâce en la personne de Jésus, eh bien je n'ai plus eu besoin de ce pédagogos. Je n'ai plus eu besoin de métapélète, de nounou, de nourrice. Mais j'avais en moi la puissance du Saint-Esprit qui était capable et à même de faire de moi un enfant de Dieu mature et de réaliser et de comprendre quelle était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas diriger la maison de Dieu avec nos pensées humaines, avec nos raisonnements, par la chair. Mais nous voulons conduire la maison de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Le pédagogos, c'est celui qui dirige un garçon, un tuteur, et c'est un gardien et guide de garçon. C'est un mot appliqué aux esclaves dignes de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que nous appartenons à une classe supérieure. J'entends pas de « Amen hein. ». Je pense que il faut dire « Amen hein. ». Nous appartenons à une classe supérieure. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous sommes des fils et des filles de rois. Oui ou non ? Dis amen. Combien de fois tu t'es retrouvé dans une situation compliquée qui te semblait insurmontable à vue humaine et là tu as vu la main de Dieu agir sur ton foyer. Oui ou non ? Qui peut lever la main et dire « Effectivement, Dieu m'a secouru dans telle et telle situation ». Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans ses tuteurs tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Ça, c'est le pédagogos en grec. Mais quand on décline en grec, le pédagogos vient de païs, qui est un enfant, un garçon, un serviteur. Et Jésus n'a pas hésité comme une proie à arracher d'être morphologiquement Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu un esclave et il est venu jusqu'à nous afin de pouvoir comprendre encore bien plus parfaitement les moments et les situations que nous pourrions traverser les uns les autres dans chacune de nos vies. Mais dans cette déclinaison du grec de pédagogos qui vient de païs, un enfant, un garçon, un serviteur, un jeune homme, eh bien on continue à décliner et on arrive à une forme de ago. Et à gauche, je vous ai expliqué que c'est être mené en tenant en laisse un animal. Excusez-moi de nous comparer ce matin à des animaux, mais on a besoin que le Seigneur nous tienne un peu en laisse, afin de nous diriger là où nous devons aller, là où nous devons nous exprimer, exprimer les talents que Dieu a mis en nous, en tant que ses serviteurs. Ce n'est pas simplement la responsabilité des pasteurs, des anciens, mais il a fait de nous des mamlechet kohanim, des prêtres, des sacrificateurs. Donc c'est de la responsabilité de tous les enfants de Dieu de se lever et de servir le Seigneur pour que cette notion de hago puisse nous amener à être guidés, dirigés, à être poussés et à expérimenter ces forces et influences de la manifestation de l'Esprit de Dieu sur notre esprit, sur nos cœurs, même nos émotions, ce que nous sommes au quotidien, notre corps, notre âme et notre esprit. Ce matin, nous voulons être dirigés d'après le conseil et d'après la manifestation du Saint-Esprit. Nous savons qu'en tant que fils, il a été vendu pour 30 sicles d'argent, le prix du dédommagement de la mort d'un esclave à son époque. Il a été considéré jusqu'au bout comme un esclave. Et ce matin, nous sommes à l'image du Seigneur, nous sommes esclaves les uns et les autres de la justice du Seigneur. Le corbeau, c'est bien sûr le Erev, le soir, c'est l'image de cette notion d'hébreu de Arav qui signifie mélanger, mêlé, de Erev, l'étranger qui est mêlé aux Israélites. Vous savez, il y a des gens qui se mêlent au milieu de nous et qui ne vivent pas sous l'onction et la direction du Saint-Esprit. Nous sommes quelquefois, même dans la maison de Dieu, ça peut vous étonner, parce que nous, on est occidentaux, on est assez cartésiens, j'ai été élevé en Occident, mais je suis un oriental. Et les orientaux, on croit au monde des ténèbres. Et j'espère ce matin que vous croyez que la puissance de l'enfer, elle existe. Je dirais même que peut-être vous l'avez expérimenté ces derniers temps, la puissance de l'enfer. Mais est-ce que vous croyez que le diable, la puissance de l'enfer, les démons, la sorcellerie, est plus forte que la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que vous le croyez? Moi, j'ai une tante qui a rencontré le Seigneur des années après, mais quand elle vivait dans le monde, et particulièrement en Afrique du Nord, elle a été maudite. Et la femme qui l'a maudite, elle a maudit tous les mâles de sa famille. Et elle est arrivée à expérimenter l'évangile au moment où tous les mâles de sa famille sont morts les uns derrière les autres. Le monde des ténèbres existe, les sorciers existent. Moi, je l'ai vu en Afrique. Je l'ai vu même en Israël, où après des paroles de connaissance, des gens qui exerçaient la magie, la sorcellerie, ont été éradiqués du milieu de nous. Moi, je vous dis que dans l'Église des derniers temps, le diable va essayer de nous infiltrer. Il infiltre la maison de Dieu, il envoie ses émissaires, mais par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, ils sont dévoilés au nom puissant de Jésus. Ils sont éradiqués du milieu de nous parce que la puissance du Saint-Esprit est au-dessus de la puissance des ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Le corbeau et rêve aussi dans cette racine, au rêve de, et cette racine de Erev, c'est l'étranger qui se mêle aux Israélites. Nous sommes infiltrés, nous nous rappelons que lorsque Néhémie a voulu, avec Zorobabel et les autres, Esdras et compagnie, reconstruire la muraille, et les ennemis d'Israël ont essayé de les approcher pour leur apporter leur main d'association. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a de la compatibilité entre les ténèbres et la lumière? Est-ce que nous pouvons travailler avec ceux qui vivent dans les ténèbres? Le corbeau, c'est un oiseau impur qui se nourrit de charogne. La charogne, en hébreu, c'est Nevela. Il fut lâché une fois à l'extérieur de l'arche. Le texte nous dit qu'il revenait, mais dans la notion de l'hébreu, le verbe revenir, shuv, peut aussi avoir une notion de s'éloigner. Il allait et il venait, mais en fait, il trouvait des garanties dans l'ordre ancien. En étant un charognard, imaginez-vous le déluge, il y avait encore de l'eau, à la surface de l'eau, des cadavres. Des cadavres en veux-tu, en voilà. Et si on pense que tous les animaux préhistoriques qu'on a retrouvés, on sait qu'ils étaient des animaux antédiluviens, qu'ils vivaient avant le déluge. Vous imaginez un peu les festins de roi que le corbeau il pouvait trouver autour de l'arche. C'est un charognard. Il fut lâché une seule fois à l'extérieur de l'arche. Il y en avait un autre dans l'arche qui n'avait pas été lâché. Mais le corbeau, il va trouver satisfaction dans l'ordre ancien. Donc, il n'est point revenu. Aujourd'hui même, dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, il y en a certains qui vivent leur vie de communion fraternelle dans l'Église, mais qui, durant la semaine, retrouvent certaines satisfactions dans l'ordre ancien. Moi, le monde ne m'apporte plus rien. Oui ou non? Jésus a dit lui-même, j'ai vaincu le monde. Nous vivons au milieu du monde, mais par notre mentalité, nous ne sommes plus dans le monde. Et malheureusement, on parle aujourd'hui de gens qui ont rétrogradé de rétrograde. Dans 2 Pierre, il est écrit, l'heure est arrivée, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et ça, c'est un pied de nez à la doctrine calviniste qui nous rappelle que finalement, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Mais moi, je veux travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Alléluia! Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je veux travailler à mon salut, je veux rester rigoureux, je veux rester en contact et en communion avec le Seigneur. Au verset 5, il est dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Il est question d'un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. L'insensé en hébreu, c'est Naval, c'est Nevela, le charognard. C'est Navel, celui qui est séparé d'une vie communautaire. C'est celui qui se flétrit, c'est celui qui tombe comme une feuille d'un arbre, elle est sèche, elle tombe. C'est celui qui peut agir dans la folie, qui peut agir de manière désagréable. C'est Naval, le fou, le mauvais, la brute, le réprouvé. C'est celui qui est névala dans la folie. On se rappelle de Nabal, lorsque David a voulu le visiter et être accueilli chez lui. Nabal a été comme un insensé. En hébreu, on dit de quelqu'un qui est un insensé, Umebulbal. Ça vient de Babel. La tour de Babel, la confusion, alors que les hommes voulaient monter une tour et se retrouver l'égal de Dieu. Dieu est descendu et les a confondus, alléluia. Ils se sont mis à parler des langues, ils ne se comprenaient plus. Mais la malédiction de la tour de Babel, elle s'est arrêtée à Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils se mirent à parler d'autres langues. Et ceux qui étaient à l'extérieur et qui observaient se disaient, mais comment font-ils pour parler des langues qui ne sont pas les leurs? C'est l'arrêt de la malédiction de la tour de Babel, la puissance du Saint-Esprit qui veut nous conduire. Nous voulons des dons spirituels, alléluia. Nous voulons des parler en langue, des interprétations de langue. Nous voulons des paroles de connaissance. Nous voulons que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise. Nous sommes dans les derniers temps et nous ne voulons pas rater l'occasion qui nous est donnée de faire qui plus est aujourd'hui, plus que jamais, la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a, alors qu'il n'avait rien fait, expérimenté des choses terribles. Il a été frappé dans son corps, frappé dans sa famille, frappé dans sa richesse. Et cet homme, c'était qui? C'était Job. Et lorsqu'il va tomber en décrépitude pendant un temps, sa femme va aller le trouver. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Regarde ton état, non? Elle lui dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Dites-moi un peu, est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit quoi? Et non. Elle lui dit, bénis Dieu et meurs. C'est pas la même chose. Elle lui dit exactement, en hébreu, barer Elohim vamut. Bénis Dieu et meurs. Vous êtes choqués, non? C'est bien que vous soyez choqués. Parce que moi, j'aimerais vous dire une chose ce matin. Aucun scribe, aucun juif ne peut écrire le verbe lekalel, maudire, à côté du nom de Dieu. Parce que le Dieu que j'ai expérimenté ce matin, c'est pas le Dieu de la malédiction. Le Dieu que tu as expérimenté dans ton foyer, dans ta vie personnelle, c'est pas le Dieu de la malédiction, c'est le Dieu de la bénédiction. Cependant, nous le savons, nous, en tant que juifs ayant grandi dans le judaïsme, avec l'intonation et la manière dont nous lisons le verset, on sait que c'est ironique de la part de la femme de Job. Et lorsqu'elle va lui dire « Bénis Dieu et meurs », Job comprend bien qu'elle lui dit « Maudit Dieu et meurs, espèce de grenouille de bénitier, tu es tous les dimanches à l'église, tu es à toutes les réunions de prière, mais regarde ton état, regarde ta situation, regarde tu es malade, regarde tu as toujours des problèmes financiers, regarde tu as toujours de l'opposition, mais est-ce que lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus, le Seigneur vous avait raconté que tout allait aller dans le meilleur des mondes ? Quand on a donné son cœur à Jésus, on a déclaré la guerre à Satan. Et le diable travaille. Les choses s'accélèrent. Avant le corona, juste avant qu'il ne démarre, j'avais annoncé, vidéo à la pluie, que nous allions vivre une année de trouble. Je peux vous dire que moi, j'en ai vécu du trouble. Victime même de fake news dans les journaux, partout. Et aujourd'hui, tout ce qui a été dit même dans à la télévision, dans les journaux, pas à la télévision, mais dans les journaux, il n'y avait rien de tout cela. J'ai vécu une année de trouble, vous avez vécu plus qu'une année de trouble. Et j'ai même annoncé, preuve à l'appui à l'Église, qu'après le corona, on aurait la guerre. Nous y sommes. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas me lamenter ni pleurer. Je me réjouis plutôt parce que tout ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu est en train de se réaliser sous nos yeux. On ne peut pas être accablé, on ne peut pas être angoissé, on ne peut même pas être perturbé parce que nous ne pouvons pas accuser le Seigneur de nous avoir menti. Tout était annoncé et nous y sommes. Et alors que nous sommes dans les derniers temps, le diable va essayer de mettre hors course de nombreux croyants au milieu de nous. Mais nous voulons tenir ferme. Et c'est ce qu'a fait Job. Il va se retourner vers sa femme et il va lui dire quoi ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire « Nevela ». Pas insensé, il va lui dire « charogne ». Si tu me demandes de renier Dieu, tu es une charognarde. Tu es à l'image de cet animal qui a été écrasé par un véhicule en plein mois d'août sur l'autoroute entre Aubagne et Cassis, là. Tu es un animal en putréfaction, tu as été écrasé par le pneu d'un gros véhicule. Et là, il y a la chaleur qui te frappe. Et là, tu es en train d'être dévoré par les corbeaux. Tu es une charogne. Si tu me demandes de renier Jésus, de renier le Dieu d'Israël, tu es une charogne. Bien sûr, ce matin, ne le fais pas, ne te tourne pas vers ta femme en lui disant « Nevela, charogne, parce que tu vas aller manger au restaurant et tu vas aller dormir à l'hôtel. » Mais c'est une réalité. Nous ne pouvons pas renier notre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Tout-Puissant. À lui soit toute la gloire. Vous allez me dire « Mais pasteur, le corbeau, il a nourri Élie. » Mais là, on a encore une image. Élie, c'est en hébreu, c'est « El Ani ». Mon Dieu, Élie, c'est mon Dieu. Mon Dieu a été servi par le corbeau qui symbolise le charognard parce qu'à la croix, Jésus, il a vaincu les principautés et les dominations. Alléluia! Même les démons ne sont que des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa chute. Mais un jour, ils reconnaîtront eux-mêmes la puissance de Dieu et ils seront jetés dans les temps de feu avec le diable. La colombe, eh bien, c'est Yona, elle est douce, c'est un oiseau pur. Et là, nous allons entrer dans la phase positive du message. La colombe, dans Luc 3, verset 22, c'est la forme que prend le Saint-Esprit, symbole de la fidélité. Alléluia. La fidélité émette, vérité. Émette, vérité, c'est le Aleph, le Tav, avec le même au milieu, la lettre même, qui est le Merkaz, le centre, l'Alpha et l'Oméga, avec le centre, le même, le centre de la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Emet, c'est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, avec le même, Jésus est le centre et le cœur de la vérité. Jésus se doit d'être au centre de la vérité. Il a dit, je bâtirai l'église, oui ou non ? Est-ce qu'il a dit, je bâtirai l'église ? Il a dit, je bâtirai l'église, il nous associe à son œuvre. Et lorsque Salomon va bâtir la maison de Dieu, Salomon bâtit sa maison et la maison de Dieu, c'est le verbe livnot en hébreu, construire. Mais dans le livnot, on a le ben. Bana, on a le ben. Je bâtirai l'église, mais l'église, elle se bâtit sur le Fils. Sur le fondement solide. Là, l'église, elle ne se bâtit pas sur l'intelligence des hommes, mais elle se bâtit sur le Fils qui, bien entendu, nous rappelle que le ben étant le Fils, on a la notion dans Livnot, bâtir du mot Even qui est la pierre. Even, c'est Av Veben, le Père et le Fils. Et lorsque Salomon a fini de bâtir la maison, la gloire de Dieu descendue, le Saint-Esprit. Je bâtis l'église sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia! Et nous croyons que Dieu agit encore au milieu de nous. Nous croyons que Dieu encore nous parle, qu'il nous dirige, qu'il nous conduit. Et même si nous avons traversé des moments difficiles, grâce à l'assistance et à la puissance du Saint-Esprit, cette église, elle va renaître. Cette église, elle n'est pas morte. Cette église, elle a été frappée. Cette église, elle a été éprouvée. Cette église, elle a traversé des moments difficiles, mais par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, même ce matin, nous pouvons être comme rafraîchis, renouvelés, encouragés, fortifiés, sachant que Dieu est avec nous, et on l'a entendu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Saint-Esprit descendit sur Jésus, sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et ce que nous rappelle la colombe, c'est que la colombe, elle est propre dans sa nature. C'est pourquoi nous devons marcher en nouveauté de vie, les cœurs et les corps purifiés. Nous avons été abîmés par l'épreuve. Et étant abîmés par l'épreuve, on a peut-être des pensées revanchardes, des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est tout à fait légitime parce que nous ne sommes que des êtres humains. Mais ce matin, est-ce que tu veux être le corbeau ou la colombe? Tu veux être un charognard ou être à l'image de la colombe qui est l'image du Saint-Esprit? La colombe, elle est douce dans ses manières. Philippiens chapitre 4 verset 5, et c'est pour moi, parce que ce matin on parlait des fruits de l'esprit, et ma femme et son ami m'ont dit, il y a aussi les légumes de l'esprit. Hein? Il y a les fruits de l'esprit et les légumes de l'esprit. Hein? Où est-ce qu'on est nous? Dans les fruits de l'esprit ou dans les légumes? Hein? Le fruit il est sucré, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on a souvent été choqués par le mystère du sacrifice de Caïn et Abel. Et il y en a un qui a été exaucé, l'autre non. Est-ce que vous croyez que Dieu a des préférences ce matin? Est-ce que vous pensez que Dieu préfère un juif à un kabyle? C'est la question que je pose là. Mon frère kabyle, là, parce que c'est étonnant de savoir qu'un juif il est ami avec un kabyle. Mais vous savez, les kabyles, dans le kabyle, il y a de l'hébreu. Hein. Il y a toute une légende sur les kabyles. Hein. Est-ce que vous croyez que Dieu fait une préférence entre un juif et un kabyle? Non, Dieu regarde au cœur. C'est vrai ou non? Dieu regarde au cœur et il veut bénir chacun et chacune d'entre nous. Dieu n'a pas de préférence. Dieu regarde au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Il veut vraiment manifester sa gloire au milieu de nous. La colombe, elle est douce dans ses manières. La colombe, elle est constante dans son amour. Elle n'a qu'un seul partenaire pour la vie. On va en parler un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut apprendre que dans nos églises, il y ait des divorces? C'est incompréhensible. Moi, il y a des années en arrière, là, je suis pas un grand-père. Je suis grand-père sur la terre, mais je suis pas un vieux grand-père. Hein. Vous voyez, je ne suis pas encore croulant, ça va bientôt arriver, mais vous voyez, mais autrefois, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, jamais on entendait que dans nos églises, il y avait des divorces. Aujourd'hui, on voit que les familles explosent. Dans la maison de Dieu, il y a des déchirures. On a bien sûr des gens qui viennent de l'extérieur, des familles monoparentales, et c'est le monde, malheureusement, qui les a détruits, hein. L'esprit du monde, la puissance de l'enfer, le monde qui les a détruits. On a des familles monoparentales qui arrivent au milieu de nous, il faut faire avec, mais certainement il faut prier. Et il faut continuer à enseigner ce que la Bible nous a toujours enseigné. La Bible ne change pas. Le monde évolue, certes, mais l'apôtre nous rappelle qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Parce que la colombe, elle est constante dans son amour. Il nous est rappelé qu'elle n'a qu'un seul partenaire pour la vie. La colombe, elle est belle dans son plumage. nous rappelle dans Actes, chapitre 7, verset 20, que Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Et nous ne voulons pas permettre au diable, à l'ennemi de nos âmes, de venir abîmer quelque brebis que ce soit dans la maison de Dieu. La colombe, elle est sociale dans ses habitudes. Et le cœur des cantiques nous dit, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil? C'est l'Église. C'est nous. Et nous devons nous préparer, pas simplement à lever les yeux parce que Jésus va revenir, mais il faut se parer. Le jour du mariage, un des derniers mariages que j'ai fait avec une sœur africaine chez moi en Israël, elle est arrivée avec 4 heures de retard. Et pendant les 4 heures de retard, j'ai failli partir, bien sûr, hein, mais c'est parce qu'elle était en train de se parer. Elle s'est fait tresser. Elle s'est apprêtée, elle s'est faite maquiller, elle s'est faite les ongles. Ça a pris du temps, mais voyez, elle s'est parée. Et de même, nous qui sommes l'Église du Seigneur, nous devons nous parer, nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier, nous mettre à part. Et la sanctification, les it kadesh en hébreu, c'est vraiment être à part dans une notion de mentalité. Sanctifié, séparé de ce qui est profane. Je suis dans le monde, mais sanctifié, je suis mis à part. Je vis au milieu du monde, j'y suis. On ne vous demande pas d'aller sur les hauteurs du Garlaban, là-bas, et vous mettre en hauteur pour vous séparer. Non, 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 on vous demande, et on nous demande, d'être prêt et prête au jour du Seigneur en se sanctifiant dans un comportement et une attitude d'enfants de Dieu, alléluia. Nous sommes des Provençaux. Moi, j'ai grandi à Frévalon, à La Rose, dans une ambiance, je ne vous explique même pas. Je suis provençal, un juif provençal. C'est pas une nouveauté, parce qu'à Avignon, il y avait beaucoup de juifs, même au Moyen-Âge, voyez. Et nous, les Provençaux, on est sanguins, c'est vrai. Mettez des gens du Nord sur un terrain de foot et des Provençaux et vous filmez. Vous allez voir la différence. On est exubérant. Ça agace un peu, non? Nous, on semble être des gens exubérants. On est des Provençaux. On est extravertis. On crie, on ne parle pas, on crie. On parle fort pour être plus juste, non? Mais j'aimerais vous dire ce matin que même si nous sommes des Provençaux, même si nous sommes un peu sanguins, on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on veut dire au Saint-Esprit, eh bien, conduis-moi, dirige-moi, amène-moi où tu veux m'amener. À la différence du corbeau qui va faire un vol, la colombe, elle va en faire 3. Et dans le premier vol, elle ne trouve à point satisfaction dans ce qui était sous le jugement de Dieu. À l'instar du corbeau qui, lui, va manger à satiété, ou à l'instar de la femme de Lot avec Sodome et Gomorre, de Yel, de Bethel, qui a reconstruit la ville de la malédiction, la ville de Jéricho, qui était la ville de la lune, Yaréar, Yericho, c'est la ville de la lune, la ville des idolâtres. Je n'ai rien à envier aux idolâtres de ce monde. Je n'ai rien à envier à la manière et à la vaine manière de vivre des gens de ce monde. Je suis une nouvelle créature, alléluia. Et ce matin, je ne veux pas être un corbeau. Je veux être une colombe. Ce n'est pas une question de couleur, hein, parce que je suis juif provençal d'Afrique du Nord, français, israélien, mais africain. Hey, je suis africain. Je suis un peu désolé parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette communauté. Mais il y en a beaucoup qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Hein? Est-ce que vous aimeriez voir beaucoup d'Africains au milieu de vous? Hein? Je suis blanc, mais je suis noir. Parce que je suis aussi citoyen de la République de Côte d'Ivoire et je suis fier. Fier d'aller annoncer et d'aller enseigner aussi en Afrique, dans les collèges bibliques, de pouvoir partager depuis 23 ans une responsabilité de leader d'une assemblée majoritairement aussi à Tel Aviv africaine. Amen. Et puis, le deuxième vol, elle va ramener une feuille d'olivier, emblème de la paix.
de ce qui symbolise la paix, de la réconciliation avec Dieu. Et bien sûr, l'olivier, l'olive, l'huile d'olive est utilisée pour la table. Elle protégeait la peau du soleil. On pouvait fabriquer du savon, vous voyez, pour se laver. On pouvait éclairer les maisons. Et nous voulons que nos maisons soient éclairées par l'huile qui symbolise la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, elle servait de protection, cette huile d'olive qui symbolise le Saint-Esprit. On en revêtait à l'époque des rois sur les boucliers. J'avais le mot en hébreu, mais pas en français. Magen. Sur les boucliers, on oignait les boucliers de cuir, d'huile d'olive, et l'huile se répandait sur le cuir, elle tendait le cuir, elle durcissait le cuir, et lorsque les flèches frappaient le bouclier, elle ricochait. Et ce matin, moi, je suis sous l'onction du Saint-Esprit. Dis amen. Quand je dis je suis, nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Et la notion d'onction en hébreu, le mot onction en hébreu, signifie protection. C'est la même chose. Onction et protection, c'est la même chose. C'est la même racine biblique. Quand je suis sous l'onction du Saint-Esprit, rien ne peut m'atteindre. Alléluia. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque je suis en communion avec lui, rien ne pourra me séparer de lui. Et même si le diable essaie de me frapper, eh bien ses traits enflammés vont ricocher sur moi parce que je suis sous la protection du Saint-Esprit, la protection de Dieu. Qui veut être sous l'onction ce matin ? Onction égale protection. Amen. Et on s'en servait de cette huile pour éclairer les maisons, adoucir les blessures. Et si ce matin tu as été blessé, le Saint-Esprit vient et va adoucir la plaie de ton âme. Amen. Jésus, c'est le baume de Gilaad qu'on pouvait apposer sur les plaies des soldats lorsqu'ils rentraient dans la guerre ou lorsqu'ils étaient sur le bord du chemin de bataille. L'huile d'olive servait à éclairer le temple avec la menorah, la seule source de lumière du tabernacle qui nous rappelle la menorah, le candélabre, que cette seule source de lumière nous parle de la personne de Jésus. Amen. On s'en servait aussi pour l'onction des prêtres, pour le parfum. Et dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dira « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et puis le troisième vol nous dit que la colombe ne revint plus car Dieu avait pourvu pour elle dans le monde, ou plus exactement dans la nouvelle création. Et depuis que je suis une nouvelle créature, je n'ai plus besoin des choses de ce monde qui autrefois me manquaient. Voyez-vous, nous ne sommes plus avides comme les gens de l'extérieur, mais depuis que nous avons rencontré Jésus, que nous sommes une nouvelle création, eh bien nous n'avons rien à envier à ceux du dehors. À Dieu soit la gloire. Ce qui est quelque chose, nous dit Paul aux Galates, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Dis avec moi ce qui est quelque chose. Je t'entends pas, plus fort. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Qui peut confesser une telle chose ce matin si ce n'est les enfants de Dieu ? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et 2 Corinthiens chapitre 5, on le connaît par cœur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Dis avec moi ce matin, église d'Aubagne confesse, les choses anciennes sont passées, dis avec moi. C'est pas la méthode Coué, hein. C'est une réalité. Hein. Les choses anciennes sont passées, tout ce qu'on a vécu est derrière. On ne pourra pas y revenir. Vous avez compris ? Il est le Dieu Aya, Ove, Veouillé. Il est le Dieu qui était, qui est et qui sera. Et nous, on est dans le OV, on est dans le Dieu qui est et le Dieu y est qui sera. On est avec ce Dieu dans le présent et on est avec ce Dieu dans le futur parce que ce qui est devant sera meilleur que ce qui était derrière. Est-ce que tu veux le confesser ce matin ? Est-ce que tu le crois que ce qui était derrière n'est pas meilleur que ce qui est maintenant et ce qui va être devant ? Ce qui va être devant est bien meilleur que ce qui était derrière. Et parce que le Seigneur lui-même nous le dit, Apocalypse 21, verset 5, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Est-ce que tu veux du nouveau ce matin ? Quelque chose de nouveau. Pas quelque chose que tu ne connaissais pas, mais quelque chose que tu connais, que tu as peut-être oublié, que tu n'expérimentes plus au quotidien. ce nouveau, c'est cette nouvelle manifestation du Saint-Esprit sur ta vie. Est-ce que tu la veux? Est-ce que ton feu ne s'est pas un peu éteint? Avec tout ce qu'on a traversé, moi-même le premier, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, je ne me suis pas éteint, au contraire. Et je crois que ce que même j'ai vécu me permet de vivre avec Dieu dans une dimension nouvelle. Vous savez, dans les églises à la mode, on parle de nouvelles saisons. Vous voyez, on prêche des messages qui vont vous satisfaire. Nous, on ne veut pas prêcher des messages qui vont satisfaire, parce que la Bible, quand elle est prêchée, ça ne fait pas toujours plaisir. Et quand moi je suis sur la chaise et j'entends des choses, je sais que c'est pour moi. Vous voyez, les fruits de l'esprit ou les légumes de l'esprit, c'est pour moi. Parce que je suis un Marseillais, fier d'être Marseillais. Amen, hein. Aubagne, c'est une antenne de Marseille, hein. Non, c'est une extension. Voilà. Parce que Dieu aime les Marseillais. Dieu aime les Provençaux. Vous voyez, quand mardi soir, je prêchais devant un professeur de Provençal. Dieu nous aime. Dieu aime tous les hommes. Nous sommes sa création. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dis-moi ce matin, est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie? Fais-moi signe. Si tu n'as pas la joie, fais-moi signe. À ma femme, tu n'as pas la joie, tu as levé la main. Qui n'a pas la joie ce matin? On peut ne pas avoir la joie, l'avoir perdue, avoir été déçu, découragé. Mais le Seigneur te redonne la joie ce matin. La joie du Saint-Esprit. La joie du salut, la joie de la communion fraternelle, la joie de la fraction du pain. Parce que pendant le corona, c'était dur de faire la Sainte-Cène. Mais de communier ensemble, c'est une joie. La joie de nous retrouver. C'est pas un fardeau que de venir dans la maison de Dieu. Moi, quand j'allais à la synagogue, je pleurais. C'était un fardeau. J'y allais le matin à Shacharit à 4h. L'aurore, je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. J'y retournais à 15h. Mon grand-père rabbin était aveugle, mettait son bras sur mon épaule, il fallait que je le conduise. Et j'y allais le soir, il y avait la prière de Shacharit, la prière de Mincha l'après-midi, et la prière de Arvit le soir, trois fois le jour. Et trois fois le jour, j'y allais. Alors que nous, on a deux, trois, quatre réunions maximum par semaine, et on a du mal à se mobiliser. Si tu fais un concert de louange, l'église, elle est pleine. Hein. Mais si tu fais une nuit de prière, il n'y a personne. Hein. Comme on dit à Marseille, il y a des gueux. Oh, il y a des gueux, hein. Oh, c'est la prière, il y a des gueux. Il y a le concert, c'est plein. Parce qu'on veut une église qui va nous divertir. Moi j'aime la louange. Hein. J'aime entendre la musique. J'ai aimé le violon ce matin, là. Hein. Mardi soir, j'ai aimé le saxophone. J'aime la musique. Mais ça nous prépare surtout à écouter le message et à entrer dans la louange et l'adoration. Ce sont des moyens que Dieu nous a donnés pour entrer dans la louange et l'adoration. J'aime la musique, c'est vrai. Mais ça ne va pas supplanter la parole de Dieu et le temps de louange et d'adoration. Pourtant, je peux vous dire que j'en ai fait de la musique un peu. Et des CD, j'en ai vendu quelques milliers. Mais on a mis l'argent pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a des stars, hein, qui nous font des shows. Je me suis retrouvé dans une église, on parlait trois quarts d'heure du pasteur, un quart d'heure de Jésus. Ça fait peur quand même. Hein. Il y a des gens qui défient le ministère. Mais celui que nous voulons élever et glorifier, c'est Jésus ce matin. Amen. Et on veut avoir des musiciens qui jouent bien, des choristes qui chantent bien. C'est formidable, mais ça ne va pas remplacer l'essentiel, la parole de Dieu. Et le temps de louange et d'adoration et la vie de l'esprit et les dons spirituels. Réexercer les dons spirituels. Recherchez-les, demandez-les et laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger. Ce matin, nous sommes des colombes et pas des corbeaux. Que Dieu vous bénisse.